Terrorist networks, terrorist states.
Non, 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 nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 152e émission. Gilles Gouget et Pascal Rullier dans le poste. Bonjour Pascal.
Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour à toutes et à tous les auditeurs tristes qui écoutent Divergence numérique sur les ondes du 93.9 de Divergence FM ou sur les ondes de Radio Escapade.
Oui, 103.3, 104.1. 1 et 102.0.
Bien joué Pascal. On salue aussi les auditeurs de Radio Larzac. Et un petit clin d'œil aux Québécois qui ne nous écoutent plus. Pour cette 152e et dernière émission de l'année 2012, on va parler Open Data, un des sujets majeurs qui est marqué cette année. Sans oublier la revue de presse de l'April pour la semaine 50 et non pas 49, comme je l'ai malencontreusement copié-collé. Mais aussi donc un entretien autour de l'Open Data avec Michel Aslagnan, vice-président de Montpellier Agglomération. Et puis on fera aussi un petit retour avec Frédéric Couchet, délégué de l'April, sur la campagne PAC Liberté 2. Qui s'est refermé ce 17 décembre. On aura aussi une petite news sur GeoConcept.
Oui, tout à fait. Et puis sans oublier le film musical qui va nous accompagner tout au long de cette émission avec la dernière sortie du net label Up It Up, la sortie numéro 52, The Ferré Show, par Goto 80 et The Wish King Band, de la musique faite avec du C64.
Voilà, la musique 8 bits, en tout cas.
Avec des instruments acoustiques.
Voilà, on aura un des pionniers en fait de cette musique en guise de suite musicale, de film musical, que dit-il ? Tout de suite, la revue de presse de l'April.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois ?
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 50 de l'année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, petit comité, on n'est que deux, pas de Nicolas ce soir. Le sommaire.
Alors, sommaire usuel. Hein, j'arrive à sélectionner toujours un nombre autour du nombre d'or 7. Mais je viens faire remarquer beaucoup, beaucoup d'articles remontés, notamment à cause des brevets. Ça fait mal au cœur, mais on va vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer. On va aller voir Belle-Île en Terre, on va vous parler un petit peu d'éducation nationale, les hippies et un long article des plus intéressants, on reparle d'Ubuntu et de Richard Stallman, les big data, les brevets américains et le brevet unitaire européen qu'on garde en plat de résistance à la fin.
Ouest France, infothéma pour découvrir les logiciels libres, Belle-Île en Terre, un article de la rédaction.
Petit article sympa qui présente voilà, une association, des activités qui se passent en région, donc à Belle-Île en Terre. Je sais pas, tu connais Belle-Île en Terre, toi ?
Absolument pas.
Pas encore ?
Et non. En tout cas, bon, voilà, manifestement, il y a un Lug assez actif là-bas, donc bravo à eux. Et voilà qu'un relais dans la presse locale. C'est très bien. PC Impact, les projets numériques du gouvernement pour l'éducation nationale, un article de Xavier Berne.
Alors, un article en négatif. Est-ce que tu sais ce que je veux dire par négatif ?
Oui, parce qu'en fait, il y a. À aucun moment, dans l'intervention et ce qui a été dit par l'éducation nationale, il ne parle de logiciel libre.
Ce qui est quand même amusant, hein. C'est un article qui exprime, voilà, et qui nous intéresse parce qu'ils disent, attention, ils n'ont jamais parlé de logiciel libre. C'est un peu original.
Voilà, c'est le bilan, une des conclusions de l'article. Bon, pour le reste, on parle un petit peu de ce que dit le ministre qui met l'accent sur la formation des profs pour utiliser l'informatique et le numérique à des fins pédagogiques en disant que les écoles sont déjà largement équipées et bien souvent, ça dépend des départements ou des communes en fonction du type d'établissement et qu'en revanche, on n'a pas vraiment formé les profs à l'utilisation pédagogique de l'informatique.
Oui, moi je le vois quasiment comme une caricature, hein, et il en parle, il explique, voilà, il y a des classes où on a un vieil ordinateur dans un coin, ou plus, mais des choses inutilisées, quasiment inutilisables, parce que il n'y a pas les gens pour les prendre en main. Donc j'en déduis effectivement que leur travail, c'est sur les enseignants, l'intermédiaire indispensable. Bon, on va voir ce que ça donne.
Voilà, on sait que dans le domaine de l'éducation nationale, c'est très partagé, il y a des trucs qui sont vraiment à fond pour le libre, avec des enseignants ou des structures qui sont très libristes, et en même temps du lobby du propriétaire, notamment de Microsoft, qui est très fort. Donc c'est très ambivalent.
Ouais, j'espère qu'ils vont travailler dessus, peut-être se rapprocher de tout ce qu'ils ont parlé pour les universités, les fac labs, les choses comme
ça. Mais en tout cas, avec la circulaire Hero dont on a abondamment parlé ces dernières semaines, on aurait peut-être pu espérer que ce soit intégré dans leur démarche. OVNI, Internet, c'est un truc de hippie, un article de Laurent Chemla.
Alors Laurent Chemla, il est super connu dans le milieu Internet, notamment il a écrit tout un article, tu te rappelles du titre ?
Un livre même, qui s'appelle « Les confessions d'un voleur » qui donnait suite à un article. Laurent Chemla, c'est vraiment un des pionniers d'Internet en France, commençait vraiment très très tôt. Et il s'était distingué à l'époque en cassant le marché des noms de domaine, hein, puisque c'était vendu une fortune et lui avait automatisé tout ça. Et il avait écrit justement cet article plus ce livre... avec l'idée d'être un voleur, en disant que même en ayant automatisé tout ça, il continue à gagner beaucoup d'argent très facilement, il trouvait ça assez indécent.
Et donc là, un long article, et j'hésiterai pas à le dire, c'est un article à lire, parce qu'il nous parle, il parle de choses vraiment intéressantes, il parle notamment de l'histoire d'Internet et de la manière dont il a été construit, d'où la référence au hippie.
Tout à fait, et on retrouve des thèmes qui ressemblent à ceux de Benjamin Bayard sur... le Minitel 2.0, article, il faut 10 minutes pour le lire, donc c'est un long article, mais c'est pas l'enfer non plus, donc allez-y.
Oui, puis en plus, la mise en page OVNI est vraiment agréable, parce que l'article est sur d'autres endroits, hein. Il y a d'autres sites, des blogs, et là, bon, vous avez les petites photos qui sont assez sympas, avec des petits encarts, il y a toujours vraiment un gros travail d'édition qui est derrière, et puis le contenu est vraiment fun. Moi, j'adore cette attaque sur les structures pyramidales, hein, qu'on a déjà relayé de nombreuses fois, le fait que voilà, Internet, c'est décentralisation, Internet, c'est une époque, et on hérite de cette époque, hein. Il le cite, il le dit, c'est les années 68, en gros, et les hippies, c'est eux qui ont construit Internet, c'est eux qui nous ont offert ça, et à une autre époque, avec d'autres personnes, on aurait eu un autre réseau, pas de la même nature. Et aujourd'hui, bah, il conclut avec, voilà, il y a toujours un gros travail, il faut se méfier notamment des États, mais aussi, peut-être même plus.
Surtout parce qu'il dit en fait que les États sont franchement la ramasse, mais qu'aujourd'hui, le danger, il est en interne, et que la simple position de fournisseur d'accès, en fait, c'est une sorte d'incartade au principe d'Internet qui est censé mettre les ordinateurs en réseau, et que quand on dépend d'un fournisseur d'accès, bah, notre ordinateur n'est pas en réseau, il est... à distance d'Internet, et quelqu'un nous vend un accès à Internet, mais on n'est pas réellement sur Internet, et que du coup, ces gens-là, on pense à l'attaque sur la neutralité du net, et notamment avec l'histoire de Free, de YouTube actuellement, par exemple, mais d'autres choses dans le genre.
Oui, où ils ont bloqué un peu la bande passante, ça s'est débloqué, il semblerait.
Oui, mais bon, voilà, donc ce sont des acteurs qui sont en position de limiter, contrôler votre accès à Internet, le nôtre, et donc c'est pas bon du tout, surtout que bah, ils peuvent avoir tout à fait intérêt et gagner beaucoup d'argent à ça.
Oui, je rappellerai, votre connexion Internet est vraisemblablement asymétrique, c'est pour ça qu'on dit ADSL, et donc vous pouvez consommer, mais beaucoup moins, ou en tout cas c'est tellement peu encouragé, produire, alors que justement Internet c'est un monde où on peut produire et consommer, et à égalité, hein, y a pas de limite.
Voilà, donc allez lire cet article, ce sera toujours mieux que d'écouter notre résumé un peu bancal. Programmer.com, Richard Stallman, Excommuni, Ubuntu, un article de Frédéric Mazuet.
On en a déjà parlé, mais c'est un sujet qui reviendra sûrement. On a notamment commenté le Framablog qui avait traduit l'article original de Richard Stallman. Et là, c'est un petit peu les retombées médiatiques, parce que bah, il y en a, et je pense qu'il y en aura d'autres. Bah, Stallman, il excommunie, enfin, c'est notre gourou. Hein, là, il est en train de taper sur la grosse distribution dont on parlait depuis des années.
Donc, il demande aux libristes de ne plus faire la promotion d'Ubuntu et donc de la présenter comme une distribution qui espionne ses utilisateurs. Donc c'est effectivement une excommunication, hein. En gros on ne parle plus d'Ubuntu comme une distribution libre vraiment, et il y a des trucs qui ressortent, hein, qui existent depuis longtemps, qu'il a gardé sous le coude, notamment que dans Ubuntu, dans l'application qui permet d'installer d'autres applications, on a mélangé du logiciel libre et du propriétaire.
Oui, il n'y avait pas vraiment de notion de licence, il me semble, qui était affichée, plutôt des notions de prix.
Et que bah, le payant et propriétaire étaient plutôt mis en avant. Donc déjà, ça fait un petit moment que ça existe, ça a énervé. Donc manifestement, Stallman a décidé de taper fort.
Je rappellerai, hein, on utilise les termes excommuni, et moi je parle de gourou. C'est Stallman, hein, qui se moque de lui-même en se présentant comme un gourou, mais un faux gourou bien sûr, parce qu'on n'est pas vraiment dans ce domaine-là. Et forcément, la liberté n'encourage pas normalement le milieu sectaire, n'est-ce pas ?
Alors il faut noter que sur la version française, la communauté Ubuntu a fait une version avec un ballot screen, donc une sorte de petite fenêtre à l'installation qui permet ou non de mettre en place ce système, hein, on le rappelle. Donc c'est un système où vos recherches sur les moteurs de recherche, enfin à l'intérieur du système, donc quand vous allez chercher des fichiers ou des logiciels, etc., vous envoyez des informations à Canonical. donc, qui est la boîte qui a créé Ubuntu, et ces informations sont revendues à Amazon. Et donc voilà, donc la communauté francophone a fait un truc qui vous permet de choisir ou non d'avoir ce système en place. Donc c'est un pis-aller, et bravo à eux en tout cas pour avoir fait ce système-là. Développer.com, adoption des big data, ce n'est que le commencement, selon Talent, qui analyse cette nouvelle tendance. Un article de la rédaction.
Encore là, un article d'une boîte. Hein.
Oui, un article de pub. Je ne te félicite pas, Manu. La source, c'est un communiqué de presse de Talent. Donc,
je vais peut-être un peu plus filtrer ce genre de choses-là, effectivement. Donc, bah, ça n'empêche, hein, on peut rappeler que, effectivement, les entreprises françaises, elles font un gros travail de communication. Hein. On a un article qui le montre. Et eux, leur travail, leur motto, c'est de dire, voilà, vous voulez optimiser ce que vous faites dans vos entreprises, vous voulez travailler mieux, être plus performant, être plus innovant, le libre va vous fournir des solutions. Hein. Et puis, nos entreprises, bien sûr, vous vous en doutez, des entreprises comme Talent.
Voilà, donc bah, c'est un article qui est issu de la publication d'un rapport qu'ils ont fait. Si le sujet vous intéresse, allez le lire, mais en ayant bien conscience qu'il s'agit d'un travail de Talent qui, bien sûr, met en avant leur prestation dans le domaine. Lemonde.fr, le système de brevets américains largement détourné par les trolls, un article de la rédaction.
Alors les trolls, ce sont de méchantes bêtes qui vous attendent quand vous passez sur un pont pour vous rançonner.
Voilà, c'est une expression utilisée en Amérique du Nord, les patent trolls, donc les trolls de brevets. Donc ce sont des entreprises qui ne sont pas, à proprement parler, des entreprises informatiques. Ce sont des entreprises qui vont déposer ou racheter des brevets.
Voire même qu'on crée pour y placer des brevets. Hein. Y a des géants qui créent ces entreprises-là juste pour leur donner des outils pour ensuite attaquer d'autres entreprises.
Et oui, là où ça pose problème, c'est que ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour protéger leur production et leur logiciel comme le brevet est censé le permettre.
Bah oui, parce qu'ils produisent rien.
Et oui, et c'est juste gagner de l'argent en allant rançonner les PME essentiellement, ou comme on a là dans les guerres Apple, Google, Samsung, etc., mettre des bâtons dans les roues de la concurrence.
Oui, hein, c'est un gros foutage de gueule, c'est un blocage pour plein de gens qui essayent de travailler sans forcément avoir à penser j'ai un avocat qui va venir taper à ma porte et qui va me demander des dizaines de milliers de dollars, et ça encore je suis gentil, hein, c'est pour les petites boîtes, parce que derrière vous êtes une machine à sous, donc ils vont essayer de taper au plus haut, et ils vont vraiment vous bloquer, ils peuvent aller en justice, ils peuvent essayer de faire en sorte que vos produits ne soient plus distribués, ouais. ça peut aller loin.
Voilà, et l'article avance quelques chiffres intéressants. Il dit qu'au 1er décembre, 61% des procès pour violation de brevets ouverts aux États-Unis leur étaient par des trolls, donc des entreprises qui font du bénéf sur le simple fait de faire du procès.
Des entreprises d'avocats, je rajouterais.
Voilà. Et en ce qui concerne les PME, les startups, etc., on est entre 20 et 35% des PME qui ont eu des problèmes.
Des startups, oui, des startups qui se lancent.
Ont été attaquées sur des questions de brevets, donc c'est loin d'être négligeable. Et on voit tout l'effet négatif que ça peut avoir.
Je crois qu'il y a une proposition qui avait été intéressante là-dedans, mais qui ne résout pas complètement le problème, c'était de faire en sorte que ces entreprises, quand elles perdent, elles doivent payer plus que ce qu'elles ne payent actuellement, notamment elles doivent payer les frais des entreprises qui se sont défendues. Alors, on en parlait à part, effectivement, ça ne résout pas le problème. Pendant des années, vous allez être harcelé par des équipes d'avocats dont c'est le boulot. Et déjà, si vous arrivez à vous défendre contre ça, bonne chance, ça va vous coûter.
On sait que c'est suffisamment compliqué de lancer une entreprise, une activité, et quand son boulot, c'est de faire du logiciel, de le vendre, en tout cas de faire du business là-dessus, on n'a pas nécessairement le temps de se coltiner une procédure pendant 2 ans, dans le meilleur des cas. En France, on est en général sur des procédures encore plus longues, et pour peu qu'il y ait des trucs bloquants qui nous empêchent de faire ceci, cela, en attendant une décision de justice, si la décision elle tombe 2 ou 5 ans plus tard, on a tout perdu de toute façon, et le remboursement des frais, ça va rendre l'activité moins rentable peut-être, mais franchement, ça ne résout pas le problème, pas complètement.
Oui, hein, ça reste ridicule. Je rappelle, on est protégé contre ces patent trolls. Heureusement, en France, en Europe, on n'a pas tout ça, n'est-ce pas ?
Plus pour très longtemps, puisque article de PC Impact, les eurodéputés adoptent le brevet unitaire européen, article de Marc Ries. Donc c'était notre inquiétude de ces derniers mois, et voilà, c'est passé, on l'a plutôt mauvaise. Le brevet unitaire a été adopté par le Parlement européen.
Donc je vous rappelle en quelques mots, le brevet unitaire, c'est pas forcément en soi quelque chose de mauvais, c'est un moyen pour que les entreprises payent moins cher et plus facilement et plus rapidement leurs brevets. donc un monopole sur une invention. C'est juste que bah, il donne beaucoup de pouvoir à un organisme qui devient un organisme international, ou qu'il l'était, je ne sais pas d'ailleurs,
l'OEB. Qu'il était déjà, oui.
Qu'il était déjà. Donc l'Europe lui transmet un peu de son autorité, un peu de ses pouvoirs. Et bah, on sait que traditionnellement, historiquement, l'OEB a accepté des brevets sur les logiciels, quasiment inutilisables d'un point de vue légal, mais en tout cas qui sont là, par dizaines de milliers.
Voilà, comme c'est eux qui vont, dans ce principe-là, également trancher les litiges, bon, avoir tout intérêt évidemment à reconnaître les brevets qu'ils ont transmis. On se souvient là il y a 2 semaines je crois que les syndicats de l'EEB, enfin des salariés de l'EEB,
ouais, c'était comique, ouais.
Voilà, se retournaient sur le fait de enfin sur le reversement de bénéfices en disant que ça allait favoriser le fait que les salariés acceptent tout et n'importe quoi comme brevet.
Oui, je crois que c'était question de milliers d'euros, hein, 4 000 euros ou 7 000
en
euros,
gros,
je sais plus.
4 000 euros environ par salarié sur l'année. Mais bon, peu importe. Ça montre bien que cette structure est complètement ambiguë, en dehors des clous et non contrôlable. Hein. C'est un truc privé, un machin international. C'est pas en dépit du nom que ça porte. Ce n'est pas une institution européenne. Donc on a l'espoir que du point de vue juridique, ce truc s'écroule.
Parce que c'est un peu l'attente, notamment Gibus, un autre expert qui a fait une grosse tête là-dessus, vous pouvez imaginer. Il m'a remonté plein d'articles, vous pourrez aller voir en article secondaire. Et lui, il a cet espoir et il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de procédures contre l'adoption de ce brevet unitaire, notamment de pays un peu limitrophes qui n'ont pas leur langue dans les langues acceptées.
L'Espagne, l'Italie.
Ouais, ils font un peu la tête, hein, il faut avouer. Et puis tout simplement, ça va permettre les patent trolls. Il y a des entreprises qui se remontent un peu contre ça, qui voudraient que simplement on mette des lois plus logiques et plus justes. Hein. Je crois que la CJUE va peut-être avoir son mot à dire.
On verra ça. Bon, merci. Et
à la semaine prochaine.
Ça va être compliqué avec Noël, mais on va voir.
On va voir.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. Et que l'on remercie, à qui l'on souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. On précise, la CJUE, c'est la Commission juridique de l'Union européenne. Pascal, on va écouter un petit peu de Furet à présent. Et nous n'entendons plus Pascal. Ça y est, il est revenu.
Voilà, la lumière rouge fut. Un petit peu de Furet, justement, ces temps nordiques ou ces temps de fin d'année. Un petit rappel aux consoles, aux ordinateurs qu'on a eu dans les années 80, pour ceux qui s'en souviennent, justement, avec des Goto 80, avec du C64, ça rappellera des souvenirs. Justement, un groupe qui s'en sert actuellement et qui joue avec des instruments acoustiques et sur de l'improvisation. Donc, effectivement, c'est le Furet Show, la 52e sortie du net label Up It Up.
Up It Up, que l'on retrouve sur upitup.com.
Tout à fait, avec des sorties sur CD ou vinyle payantes et des albums en libre téléchargement et même sous une licence assez spéciale puisque c'est une licence Copimi, C-O-P-I-M-I qui se prononce donc Copimi, donc vous pouvez les copier allègrement. Et donc on va écouter leur premier titre de cette. C'est pas tout à fait un album puisque c'était un live qui s'était déroulé en octobre 2012 à Stuttgart.
Oui, Stuttgart.
Et donc c'est de la musique de Goto 80 qui est réarrangée par 4 musiciens. Donc évidemment en accord avec l'histoire du Furet qui est le logo de cette pochette en gif anime d'ailleurs. Et c'est aussi un spectacle avec de la vidéo où justement derrière on a un petit jeu vidéo avec l'histoire de ce Furet. Et donc on va écouter Ponky Funky Furet.
Ponky Funky Furet, extrait de ce live de 2012.
Thank you.
Go to 80 et le Uwe Schenk Band. Uwe Schenk qui s'était illustré dès les années 90 comme champion sous Commodore 64 de musique 8 bits. Comme on peut s'en rendre compte, c'est le groupe, l'album qui va nous accompagner tout au long de cette divergence numérique dans laquelle à présent on a... oui, Pascal.
Alors on peut noter du clavecin comme oui. instrument...
C'est Uwe Schenk qui le joue, le clavecin.
Absolument, du saxophone.
Par live. Jochen Feucht.
Voilà, ton allemand est meilleur que le mien. Et puis à la basse aussi, une basse.
Voilà, Markus Kössler à la basse.
Et une batterie pour la rythmique.
Maniée par Thorsten Krill. Voilà.
Exactement.
On va parler un petit peu avec une news pour les utilisateurs de GeoConcept qui vont disposer de logiciels libres développés par l'IGN, à Bigre, pour l'actualisation des données. GeoConcept, un logiciel libre ?
Alors, pas tout à fait, mais une partie. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, et GeoConcept, concepteur de technologies géographiques d'optimisation pour les professionnels, donc annonce la mise à disposition de modules développés par l'IGN et facilitant l'utilisation de ces données de référence au sein de GeoConcept, ainsi que les échanges de données entre les partenaires.
Des outils qui seront diffusés gratuitement sur les sites internet http://logiciel.ign.fr, logiciel.ign.fr et mygeoconcept.com. Le choix fait par l'Institut Géographique National d'une licence ouverte sur le code source de ces modules permettant la réutilisation et l'appropriation les plus larges possibles par la communauté des utilisateurs et des développeurs publics ou privés.
Alors on peut noter que justement le site dont tu fais référence là, logiciel au pluriel .ign.fr, déjà un site qui tourne sous SPIP, c'est déjà une bonne chose. Et donc en donnant librement accès à des outils développés par l'IGN pour ses chaînes de production, nous, dit Marc Sandrin, espérons faciliter l'exploitation de nos référentiels et le recueil d'informations utiles à leur actualisation. Par ailleurs, ces outils pourront faire l'objet d'adaptations par l'IGN afin de mieux répondre à des besoins particuliers. Donc, c'était Marc Sandrin, directeur de la diffusion et de la valorisation au sein de l'IGN.
Et puis ce à quoi ajouter Albert Da Silva Pires, responsable des partenaires France au sein de GeoConcept. Ce partenariat va permettre à l'ensemble des utilisateurs GeoConcept de bénéficier gratuitement de l'effort de développement entrepris par l'IGN et consolide la nouvelle volonté du groupe GeoConcept de proposer gratuitement des ressources métiers sur le site mygeoconcept.com. À suivre, c'est une info qu'on trouvait sur francematin.info.
Absolument.
On va se réécouter un petit peu de Furet avant de retrouver l'interview de Michel Aslanian, qui est vice-président de Montpellier Agglomération et avec lequel on va parler d'open data, nous qui avons l'art et la manière de poser les bonnes questions. On écoute Cable Swinging Ferret, toujours extrait de ce live de 2012 par le Go2 80 et le Uwe Schenk Band. Bah dis donc, ça joue rudement dans le Uwe Schenk Trift Band avec ce saxophone de Johann Feucht. Voilà, on l'enchaîne car on ne pourra pas écouter tous ces titres en intégralité étant donné le programme relativement chargé. À commencer donc par cette interview réalisée en tout début de semaine avec le vice-président de Montpellier Agglomération, Michel Alslanian, qui va nous parler d'Open Data. Aujourd'hui dans Divergence Numérique, nous recevons Michel Alslanian qui présidait l'ouverture officielle des 10 ans de l'Adulacte, vice-président de Montpellier Agglomération, délégué de la commission Innovation. Il avait souligné l'importance de ces journées et le fait qu'au-delà d'une simple adhésion à une association, c'était la philosophie qui les intéressait et les rapprochait. On est avec vous, d'abord bonjour Michel Alslanian, merci d'être venu dans les studios de Divergence.
Mais je vous en prie, c'est toujours un plaisir.
Alors donc, je le disais, vous êtes vice-président de l'Aglo, président délégué de la commission Innovation, membre de la commission Contentieux Affaires Juridiques Assurance Archives, et là ça rejoint le sujet de l'Open Data et moyens internes, membre de la commission Montpellier Méditerranée Technopole, développement économique et emploi, puisque là aussi, dans l'Open Data, eh bien, il y a pas mal d'opportunités, on le verra. Ce mardi 4 décembre 2012 se tenait le deuxième Barcamp Mon Open Data, co-organisé avec Novae LR. Tout d'abord, la première question, quelle est la démarche propre à l'agglomération en matière d'open data?
Alors, aucune démarche propre, enfin, pas de spécificité. La règle aujourd'hui au niveau de toutes les collectivités, c'est d'ouvrir les données au public. Donc nous avons décidé, en même temps que certaines autres, Rennes, Bordeaux, etc., de rendre une partie de nos données publiques, de les rendre publiques justement. Voilà. Alors évidemment, ce n'est pas accessible au commun des mortels, puisque c'est souvent sous des tableaux Excel ou dans des formats absolument incompréhensibles pour le commun des mortels, mais pour toute personne qui pourrait s'occuper et s'intéresser de récupérer ces données pour y rajouter un peu d'intelligence et en faire des applications, on en reparlera un peu plus tard, c'est une véritable mine d'or. Mmh. Et c'est surtout une véritable philosophie.
Mmh. Pascal ?
Oui, alors quelques données qui sont... déjà, les données qui sont mises à disposition sont déjà des données qui sont dans votre champ de compétences au niveau de l'agglomération. Donc ça concerne par exemple, là j'ai une petite liste, l'horaire des piscines, les maisons d'agglo, des défibrillateurs, etc., bâtiments Montpellier Agglomération. C'est tout ce que vous pouvez mettre à disposition, tout ce que vous gérez finalement.
Oui, c'est ça. Bien entendu, hein, on reste dans notre champ de compétences. On parlera peut-être de la ville de Montpellier qui reste aussi dans son champ de compétences. Nous avons décidé donc de mettre les données qui nous appartiennent dans le champ public. Donc la donnée la plus évidente, celle auquel tout le monde pense, c'est les données de transport. C'est-à-dire non seulement les lignes, mais éventuellement pour dans quelques temps les horaires auxquels les trams, les bus passent à tel et tel, tel arrêt. Mais il y a ça, il y a aussi toutes les données de périmètre de l'agglomération, il y a tout ce qui concerne, tout ce qui est rentré dans le système d'information géographique, le SIG, il y a des données qui concernent aussi la culture, les horaires d'ouverture, il y a des données qui concernent l'administration, etc., etc. Tout ce qui fait que l'espace public rend service à ses citoyens.
Quand il y a un exploitant, par exemple, sur les transports, il est facile de libérer finalement les données?
Bonne question. Alors, d'abord, nous sommes au début d'une aventure. Ça, c'est la première chose. Donc, Paris ne s'est pas fait en un jour. Je ne dirais pas que dans l'administration, on avait le même sentiment que dans l'armée française, c'est-à-dire qu'était la grande muette. Mais enfin, on a été très, très longtemps sous le signe de le pouvoir, c'est l'information. Voilà, ça, c'est quand on détenait l'information, on détenait du pouvoir. C'est un sentiment qui a évolué depuis les 15-20 dernières années. Aujourd'hui, tout le monde sait à peu près que le pouvoir, c'est le partage de l'information. Et de toute façon, si vous ne le savez pas aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, etc., vous êtes à des années-lumière derrière. Donc, tout le monde est à peu près persuadé, mais c'est quelque chose qui vient d'en haut. Et il faut que ce genre de considération descende au niveau des services. Donc, que ce soit dans les services de l'agglomération ou dans les services des partenaires comme la TAM, tout n'est pas toujours aussi simple. Parce que, on a tendance à dire, si on donne des horaires et qu'on s'aperçoit que, par exemple, pour le transport, le tramway arrive en retard, etc., il y a des gens qui vont l'exploiter. Oui, c'est vrai. Mais c'est ça la transparence. Et c'est le côté obscur de la force. Mais le côté clair de la force, c'est que justement, on va pouvoir faire des applications par exemple, qui vont permettre, quand le tramway est en retard, justement de dire, bah, écoutez, voilà la solution de remplacement que vous avez. Mais pour ce faire, il faut bénéficier des données.
Alors, l'open data, c'est quelque chose qui a le vent en poupe depuis quelque temps déjà. On parle souvent nous, sur Divergence FM, on est un peu spécialisé logiciel libre, etc. Et on a bien senti que ce soit du côté de la ville, ça va venir aussi du côté de la région. Bref, toutes les collectivités sont appelées à libérer certaines données, évidemment, peut-être pas toutes, et peut-être pas toutes pour tout le monde. Ça mérite peut-être d'être détaillé. Mais est-ce qu'il y a une synergie entre les différentes collectivités qui entrent dans l'open data? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce qu'il y a une réelle complémentarité entre les démarches des différentes collectivités?
Vous avez l'art de poser les bonnes questions. Alors d'abord, n'oublions pas que c'est une loi, c'est une obligation. Hein. Donc nous avons, toutes les collectivités ont l'obligation de libérer leurs données. Elles le font à leur rythme et elles le font au fur et à mesure de ce que ça... ça a comme influence dans les services. Encore une fois, il n'y a pas que... tout à l'heure, je mettais un petit point sur la volonté des gens de le faire ou la compréhension des gens pour le faire. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi toute la technologie qui doit évoluer. Quand vous avez un tableau Excel qui doit être remis à jour toutes les 5, toutes les 10 minutes, toutes les 20 minutes, il faut que aussi la technique suive. Donc c'est une obligation. Donc la mairie de Montpellier, par exemple, puisque vous le citez, est rentrée avec Montpellier Territoire Numérique bien avant l'agglomération. Je dirais que, comme souvent, les débats entre les différents élus et entre les différentes instances politiques sont un peu compliqués. Ce dont moi, ce que je peux garantir, puisqu'on travaille beaucoup avec mon collègue Mickaël Delafosse, qui est à la mairie en charge de ça, on s'est vu encore d'ailleurs tout à l'heure, on travaille beaucoup en collaboration là-dessus. En tout cas, ce que nous faisons, c'est que nous mettons tout en place pour que les systèmes soient compatibles. C'est-à-dire que le jour où la volonté politique sera là, il suffira d'appuyer sur un bouton pour tout raccorder. Et ça, c'est essentiel. Et c'est le discours que je tiens aussi à l'État, qui pose aussi la même question en leur disant, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, tout ça se réglera. Et ce qui sera essentiel, c'est de démontrer que l'arbre, qui est le platane qui est référencé par la mairie de Montpellier, ben celui qui est référencé par la commune de Castelnau, je ne sais pas s'il y a des platanes à Castelnau, finalement, le platane ou l'utilisateur qui aura besoin de savoir où est planté le platane, il n'en a rien à faire de savoir qu'il soit à Castelnau, que ce soit à Montpellier. Il a besoin d'une continuité territoriale. En tout cas, nous mettons tout en place pour le faire. Concernant le conseil régional, je n'en ai pas entendu parler.
Voilà, c'est peut-être à venir.
À venir, oui. Ils y réfléchissent. C'est une obligation, comme vous le disiez. Donc forcément, déjà, qu'est-ce qu'on libère? Qu'est-ce qu'on ne libère pas? De quelle manière? Et toutes ces questions qui sont évidemment posées.
Bien entendu, il y a une règle absolue, c'est qu'on ne libère pas des données personnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas imaginer qu'un jour, par exemple, l'hôpital mettra en données publiques le dossier d'un patient. C'est absolument inimaginable. On ne peut pas libérer les dossiers fiscaux des gens. On ne libère que des données qui concernent l'espace public et la société avec un grand S. Donc ça, c'est une base absolue d'éthique. Après, nous avons mis en place à l'agglomération un comité d'éthique. Est-ce que tout est bon à libérer tout de suite? Tout devra être libéré. Mais est-ce que tout est bon à libérer tout de suite? Ça participe d'un état général. C'est-à-dire qu'avec Mickaël Delafosse, ça fait longtemps qu'on milite pour que la totalité des débats, que ce soit au conseil municipal ou au conseil de l'agglo, soit sur le numérique. C'est un espace public. Vous pouvez venir et y assister. Donc, il n'y a pas de raison. Il faudrait même que ce soit filmé pour que les citoyens puissent regarder les débats. C'est très intéressant, le débat. Alors, c'est peut-être un peu long. Hier, on a eu, au conseil municipal de Montpellier, on a eu 7 heures de débat. C'est un peu long. Mais par contre, si c'est numérisé, vous pouvez aller voir le débat qui vous intéresse sur le logement ou sur les subventions des associations, etc. Donc, il faudra qu'on arrive à tout mettre sur le domaine public. Encore une fois, c'est long. Mais Paris ne sait pas faire d'un jour. Ce qui est certain, c'est que la loi nous l'impose. Et nous, les jeunes élus qui s'intéressons un peu au numérique, on est totalement convaincus de ça et on travaille la main dans la main.
La route est longue, mais la voie est libre, célèbre doctrine framasoftienne. Je vous propose de revenir sur un petit extrait du discours d'ouverture des 10 ans de la DULACT.
Alors, au-delà de ce que peut être une simple adhésion à une association, ce qui nous intéresse particulièrement dans la DULAT et ce qui nous rapproche, c'est la philosophie. La philosophie des logiciels libres pour tous et par tous. Quand on est une agglomération qui prône l'audace comme baseline et l'innovation, qui a même donc décidé d'avoir un vice-président délégué à l'innovation, On ne peut pas rester passer à côté de ce genre de choses. On ne peut pas passer à côté de ce qu'on appelle la révolution numérique, mais la révolution numérique bien comprise, bien sentie, avec une vraie philosophie derrière de partage et d'ouverture. Alors, ce n'est pas simple ce que je vous dis, parce que les administrations ne sont pas enclines à partager depuis des années et des années. Alors, même si on n'est pas dans la grande muette, c'est pas si simple.
Voilà, c'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que les collectivités, c'est des centaines, des milliers d'agents. Donc y a aussi peut-être une évolution des mentalités à pousser, à encourager, à mettre en place. Est-ce que c'est vu la masse d'agents qu'il y a dans les collectivités, est-ce que c'est plus difficile que dans le privé? Parce que dans le privé aussi, finalement, il y a une espèce de révolution des mentalités, que ce soit vis-à-vis du logiciel libre ou de l'open data, de la part de différentes entreprises qui s'y mettent, même parfois un peu bon gré mal gré. Je pense notamment à Microsoft qui est obligé aujourd'hui de faire de l'open source, même si c'était pas du tout leur modèle économique au départ. Donc ce changement de mentalité, est-ce que ça aussi ça constitue un écueil finalement?
Oui, enfin, je n'irai pas sur le terrain de ce que c'est plus facile sur le public que dans le privé. Ce qui est certain, c'est que dans le public, ça fait très longtemps, très très longtemps, que nous utilisons et que nous sommes des promoteurs du logiciel libre. Mmh. Ça, c'est clair. Après, au niveau de tous les agents, je crois que les choses se feront petit à petit par l'inversion de la pyramide des âges. C'est une des possibilités. Une autre possibilité, ça sera de rendre cohérent et conscient ce qu'on peut faire avec un open data. Aujourd'hui, ce dont on parle, c'est quelque chose d'un peu abstrait, quoi. Le jour où vous verrez une application qui sera produite par une entreprise de Montpellier qui aura produit une petite application sur iPhone qui permettra à un handicapé qui met un point A à un point B d'avoir un trajet qui sera compatible avec son handicap, avec la hauteur des trottoirs, avec la taille des portes, etc. Ce jour-là, ça montrera dans vraiment 100% de concret. Et la plupart des gens s'apercevront que, en croisant des données qui sont absolument abscondes pour la plupart des gens, on arrive à faire des applications qui vont bénéficier au commun des citoyens, c'est-à-dire que tout le monde pourra utiliser un développement de ces data pour son bien-être personnel. Mmh. Et ça, c'est formidable. On est en train, à l'agglomération de Montpellier, ça passera bientôt à la prochaine délibération, on est en train de lancer un gigantesque contrat de recherche et développement avec IBM. Et l'un de ces sur le quartier Écocité, l'un de ces objectifs, c'est justement d'utiliser une partie de ces données et de les croiser, c'est-à-dire la donnée transport, la donnée inondation, la donnée risque, la donnée eau, pour pouvoir faire des applications qui vont permettre à des gens de recevoir, quand ils seront sur la zone, sur leur téléphone, de façon automatique, un avertissement en leur disant « Attention, il y a un car qui est en panne dans 3 km, vous risquez de tomber dans un bouchon, prenez telle déviation. » C'est ça aussi l'open data. C'est ça. Mais ça, là, on va rentrer bientôt avec l'agglomération et IBM dans du concret. Et on va mettre beaucoup d'argent dans ce truc-là parce que je pense que c'est la vraie intrusion du numérique dans la vie de tous les jours.
Alors, l'open data, c'est aussi des données qui sont libérées, mais c'est aussi des données qui peuvent être collectées et abondées par tout un chacun. Alors, vous parliez à l'instant de cartographie et d'accessibilité. Montpellier Libre, depuis je crois quelques trimestres déjà, organise des cartoparties dont l'objet est justement d'aller compter le nombre de bateaux, c'est-à-dire les endroits sur les trottoirs qui s'affaissent pour qu'on puisse y accéder en poussette ou en fauteuil roulant. Là aussi, il y a une révolution numérique en ce sens où auparavant c'était un petit peu l'apanage des cartographes et de l'IGN que de faire les cartes, que d'en vendre le droit d'usage plusieurs fois aux collectivités. François Hélie a souvent dit l'argent public ne doit payer qu'une fois. Donc là aussi, on est en plein dedans.
Oui, on est en plein dedans. D'ailleurs, quand vous allez dans des cartes parties, on n'est pas surpris parce qu'on s'attend à ça, mais on voit bien l'âge des gens qui participent à ça. On voit bien qu'on est sur une nouvelle génération. Bientôt, vous aurez, sans qu'il y ait le l'idée de délation derrière, vous aurez des gens qui appelleront, grâce au système qu'on est en train de mettre en place, qui verront une borne qui fuit, une borne d'eau, qui appelleront pour dire il y a une borne qui fuit là, ou quand ils verront un paquet de poubelles, diront là, les gens ne sont pas passés les ramasser, etc. Sans que ce soit imaginé pour la délation. Ce n'est qu'une donnée que qu'on incrémente les données publiques en en mettant une supplémentaire qui va normalement servir à résoudre le problème ou en tout cas à complémenter le problème pour que l'application qui est en charge de toutes ces données trouve une solution plus simple. Mmh. Donc effectivement, vous avez raison, c'est une vraie révolution, mais qui est, comment dire, le train est en marche, quoi. Le train est en marche. On est aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux, dans le monde du partage, dans le monde de la collaboration. Et tout ce qu'on doit faire aujourd'hui au sein de l'agglomération et d'ailleurs au sein de la mairie, c'est des plateformes collaboratives.
Mmh. Oui. En termes de retour, puisque vous mettez à disposition des jeux de données, est-ce que vous avez, vous savez comment elles sont utilisées et quelles sont les applications qui en découlent ?
Alors, pour l'instant, on est au début. Hein. La mairie de Montpellier a lancé un concours pour voir un peu quelques applications pour utiliser les données. On a eu 5 ou 6 lauréats, qu'on a des associations qu'on a subventionnées. Au niveau de la partie plus économique, pour l'instant, nos données sont libérées depuis trop peu de temps pour qu'on ait encore des retours. Ce qui est certain, c'est qu'on est très vigilant. La politique qu'on a à l'agglomération, c'est de dire si des données publiques servent à enrichir un phénomène mondial, on est sur un phénomène mondial, les données sont publiques même pour les Chinois, elles servent à enrichir une société privée, il est normal que l'on récupère un success fee pour réutiliser, réentretenir ces données publiques. Ça, c'est notre conception à l'agglomération. Bien entendu, quand c'est une association, quand ces données sont à disposition de tout le monde, quand c'est une association, il n'y aura pas de ce genre de choses. Mais nous allons proposer un contrat d'exploitation quand on rentrera vraiment dans les choses un peu plus opérationnelles et un peu plus financières.
Alors je le disais tout à l'heure, ce mardi 4 décembre se tenait le deuxième Barcamp Monde Open Data où c'était essentiellement un rendez-vous d'entreprise. Les opportunités d'affaires liées à l'open data sont nombreuses. Est-ce que l'agglomération joue un rôle de régulateur pour filtrer les entreprises, on va dire, opportunistes? Est-ce que ça doit, dans l'absolu, être son rôle?
Non, pas du tout. Justement, c'est bien ça. Il ne faut surtout pas aller dans ce domaine-là. Nous mettons des données à disposition du public. Le public, quel qu'il soit, doit les utiliser. Et nous, la seule régulation que nous faisons, c'est celle que je viens de vous dire. C'est-à-dire que ce sont des données publiques. Si une entreprise privée gagne beaucoup, beaucoup d'argent, ces données coûtent cher à maintenir. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Hein. Ces données coûtent cher à produire. Donc, nous considérons que, dans certains cas, il est normal que l'on ait une rétribution de l'utilisation des données tout à fait particulières, tout à fait pointues. Mais C'est un monde sans régulation pour l'instant. Et je pense que c'est de là que naîtra la créativité et l'intelligence. Moi, aujourd'hui, je suis certain, j'ai beaucoup bossé sur le sujet. Je regardais ce qui se faisait aux États-Unis, je regardais ce qui se faisait à l'agglomération de Rennes, qui est assez en avance. On est encore, à mon avis, à des années-lumière de ce que la créativité des gens va réussir à produire avec des données. On n'en a même pas l'imagination. Hein. Moi, je discutais il n'y a pas longtemps avec les gens qui veulent implanter un Fab Lab sur Montpellier, qui me disaient l'un des avantages du Fab Lab, c'est de redonner la créativité au niveau du citoyen, que tout le monde a perdu. C'est-à-dire que maintenant, quand on a un besoin, on achète. On ne crée plus, on n'a plus d'inventivité. Eh bien, je pense que la libération de l'open data des données, ça sera un peu similaire à ce qu'ils vont faire avec le Fab Lab et ce que démontre le Fab Lab de par le monde.
Michel Aslagnan, on rappelle que vous êtes vice-président de l'agglomération de Montpellier et notamment président délégué de la commission Innovation. Un dernier mot ?
Oui, un dernier mot, juste pour les auditeurs qui voudraient aller se faire une idée. Les datas de Montpellier Agglomération, vous les trouvez à data.montpellier-aglo.com. Et là, vous aurez toutes les données, toutes les datas qui sont libérées à l'heure actuelle.
Merci beaucoup d'être venu dans le studio de Divergence.
Merci. Je vous en prie.
Au revoir. Voilà donc une affaire à suivre, hein, l'open data au niveau de l'agglo, à suivre.
Tout le monde s'y met, on voit.
Un petit peu de musique avec toujours de Ferret Show sous cette licence Copimi qu'on retrouve sur www.kopimi.com, copimi.com. Et là, ce qu'on écoute, toujours extrait de ce live de 2012, c'est Decibel Détective.
Thank you.
C'est surprenant, cette fin de morceau, très très enlevée, pourrait-on dire.
Du C64. Hein.
Voilà, du C64. La campagne PAC Liberté, deuxième du nom, s'est refermée le 17 décembre. Grâce à tous ceux qui y ont participé, 359 chatons ont été sauvés et 24 720 euros répartis entre l'April Framasoft et la Quadrature du Net. C'est Frédéric Couchet, délégué général de l'April, qui nous dresse un petit bilan. Nous l'avons joint par téléphone. Nous sommes au téléphone avec Frédéric Couchet. Bonjour Frédéric.
Bonjour Gilles.
On est là juste avant la trêve, on va dire la trêve des confiseurs, comme on dit de façon assez classique et traditionnelle, pour parler eh bien du bilan que l'on peut tirer de cette deuxième campagne du PAC Liberté, qui, je le rappelle, a pour objectif de soutenir la Quadrature du Net, l'April et Framasoft, trois associations phares du mouvement du libre en général en France. Mis à part les chiffres, 359 chatons qui ont été sauvés et un petit peu moins de 25 000 euros qui seront partagés entre les trois associations, c'est plus ou moins que la dernière ?
Bah écoute, c'est moins que l'année dernière, parce que c'est plutôt début d'année, parce que la précédente campagne datait de début d'année, on avait récolté environ 40 000 euros de dons à répartir entre les trois associations. Et là, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est plutôt autour de 25 000 euros. Bon, maintenant, ça peut se comprendre, hein, la période économique n'est pas tout à fait la même, on est en fin d'année. La situation économique en France n'est pas terrible, et donc les gens font forcément des choix. Et soutenir des associations du logiciel libre ou de l'internet libre, on n'est peut-être pas forcément peut-être la priorité. Mais globalement, c'est quand même une campagne assez satisfaisante de notre part, de notre côté, notamment pour les aspects communication. Vu que la nouveauté, c'était qu'on a pas mal communiqué avec des vidéos, une à deux vidéos par jour. Donc voilà, c'est beaucoup moins que l'an dernier, c'est moins ce qui était prévu, mais on fera avec ce qu'on a récolté. Et en tout cas, on remercie chaleureusement l'ensemble des donateurs qui ont contribué et tous ceux qui ont relayé, parce qu'on a eu des messages de gens qui nous ont dit que tout simplement ils ne pouvaient pas donner d'argent ce coup-ci, mais par contre qu'ils relayaient l'information auprès de leurs amis.
Et ces trois associations œuvrent chacune, pour ceux qui l'ignoreraient encore, dans des domaines concomitants mais assez précis. L'April qui promeut le libre de façon assez générale, la Quadrature qui s'occupe beaucoup des questions de l'internet libre, et puis Framasoft qui a diverses activités qui sont utiles à tous ceux qui veulent s'intéresser et utiliser le libre, que ce soit le catalogue d'applications par qui tout avait démarré, ou les Framabook, le Framalang, etc.
Oui, tout à fait. L'intérêt de cette campagne, notamment, c'est de regrouper des associations qui couvrent un large domaine du logiciel libre à l'internet libre, à la fois pour les aspects, je dirais, plus institutionnels, défense du logiciel libre, les aspects grand public et l'aspect internet libre et les réseaux. Trois associations qui ont des modes de fonctionnement différents, qui ont des actions complémentaires et qui se regroupent autour effectivement d'une action commune. Donc c'est pour ça qu'on a pris le PAC Liberté. C'est un PAC qui permet en fait à quelqu'un de donner un don, et ensuite l'argent est réparti égalitairement entre les associations, sauf si la personne fait une répartition manuelle différente. Mmh. Et très clairement, il y a des gens effectivement qui ont donné spécifiquement dans le cadre de cette campagne et qui n'auraient sans doute pas donné dans le cadre d'une campagne spécifique d'une des associations. Donc ceci dit, maintenant que la campagne est terminée, évidemment chaque personne peut encore nous aider, soit en adhérant aux structures, soit en nous faisant un don individuellement, soit tout simplement en rejoignant nos actions, car une des façons de contribuer aux associations, c'est pas forcément de donner simplement de l'argent, c'est aussi de donner son temps. Il y a des gens qui contribuent aux associations sans être membres, sans donner de l'argent, mais en donnant ce qui est sans doute beaucoup plus important, du temps.
Voilà, du temps et de la compétence. Juste avant de se quitter, et peut-être une notion à méditer, on avait abondamment parlé évidemment du brevet unitaire, et puis on en reparlera vu le vote malheureux qui a eu lieu. Je crois que c'est le sujet d'actualité de cette fin d'année.
Effectivement, le vote sur le brevet unitaire a été du côté de l'April l'un des sujets les plus importants. Et comme tu le dis, effectivement, au niveau Parlement européen, il y a eu un vote, mais ça ne veut pas dire que la bataille est complètement terminée. Au contraire, on va se remettre en ordre de bataille dès le début de l'année. Et puis il y a bien d'autres sujets. Nous allons notamment, en début d'année, au côté April, relancer des impressions, notamment du guide de libre association et sans doute du catalogue libre, donc des outils de sensibilisation à la fois du grand public et du monde associatif. Donc voilà, c'est au-delà des aspects financiers, il y a beaucoup d'actions qui sont menées à la fois par les permanents des associations, mais également par les bénévoles. Et donc l'année 2013 s'annonce encore une fois une année passionnante, et on encourage chacun à nous rejoindre pour participer. participer à cette formidable aventure qui est celle du logiciel libre, de l'Internet libre. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que toutes compétences sont les bienvenues. À l'April, par exemple, il y a des gens qui font de la traduction, il y a des gens qui font de la transcription de vidéos, il y a des gens qui font de l'administration système, il y a des gens qui étudient des projets de loi, il y a des gens qui nous aident à faire des outils de communication, de sensibilisation. Donc voilà, toutes les compétences sont les bienvenues et on peut travailler à la fois en étant sur place dans les différents lieux, mais également en fait par Internet, via des listes de discussion, des forums, etc.
Frédéric, on va vous souhaiter à tous à l'April de très bonnes fêtes de fin d'année, bien évidemment, et puis pas mal de courage, comme d'habitude, pour mener la lutte sur le front, souvent législatif, comme on va le voir, même si ce n'est pas très sexy pour les gens, il faut quand même toujours leur rappeler que l'histoire des brevets sur les logiciels, notamment, ça a l'air un truc super abstrait, mais finalement, ça finira par impacter leur vie de tous les jours, et pas nécessairement dans le bon sens.
Tout à fait. Ça a un impact sur la vie de tous les jours. Puis il n'y a pas que ce sujet-là. Dès la rentrée, il va y avoir sans doute, autour de la mission Lescure, un projet de loi qui va arriver.
Oui, tout à fait.
Il y a le projet de loi sur la consommation, notamment sur le droit des consommateurs et l'action de groupe. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Et nous sommes toujours motivés, hein. Il n'y a pas de souci. C'est pas parce que des fois, on perd des batailles comme celle du brevet unitaire qu'on va s'arrêter là, parce que je pense que de toute façon, on se bat pour la bonne cause, et qu'au final, en fait, simplement, le monde actuel est en train simplement de vivre ces derniers instants de contrôle, d'essayer de créer des dispositifs de contrôle d'usage, de non-respect de la vie privée, etc. Mais quand on voit en fait la dynamique qu'il y a, notamment sur les réseaux, dans les journées de sensibilisation autour du logiciel libre, on sait qu'au final, finalement, on va gagner. C'est juste une question de temps.
C'est parfait. Très bonne fête de fin d'année. Merci pour ce petit coup de fil. À très bientôt.
Merci Gilles et bonne fête à tous.
Salut. Voilà Frédéric Couchet, délégué général de l'April, l'homme qui voulait faire Sciences Po quand il était petit, mais qui a appris l'informatique, mais qui a fini par faire de la politique en ayant appris l'informatique. Et voilà, c'était l'année prochaine, peut-être qu'il y aura une campagne PAC Liberté numéro 3. Restez à l'écoute si vous voulez sauver des chatons de l'Internet. On va faire un petit tour, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour détailler un petit peu ce qui se passe côté agenda, avant de se quitter avec un dernier titre de Goto 80 and the Uwe Schenk Band. Qu'y a-t-il d'autre, mis à part l'atelier libre à Caen? Ce sera demain, le 21. Roquette libre, atelier du libre à Paris, le 21 aussi. Ou à Cotonou, au Bénin, un bar camp Bénin 2012 qui se tient le 22. De notre côté de chez nous, Pascal
De notre côté de chez nous, c'est assez calme, puisque en fait, les activités vont reprendre au début du mois de janvier.
Eh bien alors, on va vous souhaiter d'ici là d'agréables fêtes de fin d'année. On vous rappelle que agendadulibre.org pour la France, .ch pour la Suisse, .be pour la Belgique, .qc.ca pour le Québec. Je crois qu'on a tout dit.
Oui, tout à fait.
Alors on vous souhaite un joyeux Noël, ne soyez pas trop réservé, ne soyez pas trop excentrique, ne soyez pas trop extravagant, ni trop calme non plus.
Espérons que les Péruviens se sont trompés, voilà.
Oui, non, mais ça, on sait déjà depuis plusieurs années qu'ils s'étaient complètement trompés. Il n'y a que masses médias pour continuer à entretenir ce genre de conneries.
Alors, pour information, la Nouvelle-Zélande est encore parmi nous.
Ah oui, parce qu'il y avait aussi une prédiction comme quoi la Nouvelle-Zélande allait disparaître dans les flots.
Ben non, et puisque tu as une date fatidique, donc tu as forcément un écroulement du monde qui est lié à l'heure. Donc, ceux qui sont déjà de l'autre côté...
Ouh, Pascal, tu es fin, tu maîtrises à la merveille le décalage horaire.
10-12 heures de plus, hein, donc...
On se quitte avec Thriller Healer de Goto 80 de Uwe Schenk Band en vous souhaitant une bonne fin d'année. On se retrouve donc le jeudi 10 janvier 2013. Restez libres.
Restez libres. We'll be right back.